Oui, alors l'infidélité, j'ai tout de suite remis à sa juste place, c'est iniquité, injustice. Le péché, c'est quand même le terme rata. Mais on n'est pas obligé de prendre péché sous l'angle de la faute morale, mais plutôt de la distance entre Dieu et l'homme, entre la volonté et l'espérance de Dieu et ce que l'homme en fait. Quant à la terre, effectivement, c'est Eretz. Eretz qui a quand même une connotation politique, mais parce qu'elle va délimiter un peuple. Quand même, chez Chouraki, je maintiendrai l'idée de péché parce que c'est une bonne traduction de ce terme hébreu rata. Ça sera plus intéressant dans Ézéchiel 18, quand il va y avoir un jeu de duplicité sociale, avec l'oppression des plus faibles, avec la question de récupérer le gage de la dette, etc. La tricherie, on l'a un petit peu dans le livre du Lévitique, sur le fait qu'on fausse les balances, par exemple. Alors, peut-être un petit peu plus fort, pour que tout le monde puisse en profiter. Chez Agé.
On retrouve un peu la même idée chez le prophète Agé.
Oui.
Il dit vous buvez, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié.
Oui, il y a cette idée d'incomplétude. Alors c'est intéressant parce que ça nous met sur une autre piste. Le fait de ne pas être rassasié, d'ailleurs on l'a dans le livre du Lévitique, fait qu'il ne s'agit pas forcément de mourir de faim, il s'agit plutôt d'éprouver la question du manque. Et le fait de casser la baguette, contrairement à le fait de la supprimer, c'est le fait d'être dans une diminution des quantités. C'est comme s'il y avait une expérience du manque qui était engagée. Ça va être à vérifier dans la suite du texte. Oui.
Pour le premier point, pour le verset 12, je crois qu'il traduit par c'est la parole de Yahvé pour me dire, avec ce présent, non.
Oui, c'est un participe présent plutôt.
Ouais,
10
c'est
ans.
la parole de Yahvé qui me dit. Ça me semble, là encore, je crois qu'il se débrouille, plus intéressant que et la parole de l'Éternel maintenant. C'est la parole de Yahvé qui me parle, c'est une permanence.
Oui, mais c'est moins intéressant que la traduction littérale qui est « Il advint une parole de l'Éternel vers moi
Tu vois une différence entre
». Oui, parce que le « c'est », ça rend la chose statique. Et c'est un démonstratif qui n'est pas dans le texte. Donc là, Chouraki est un peu à côté. Voilà, bien. On passe au verset 14 avec une mention un peu étonnante. Et que ces trois hommes, Noé, alors en fait c'est pas Daniel, c'est Danel et Job. Ah oui, alors est-ce que vous avez d'autres traductions que Louis II ou Darby Chouraki traduit comment, tiens? Il met pas de i.
Si, sur un texte nous raconte.
Chouraki met un i, il dit Daniel.
Non, c'est Danel.
Danel, ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres traductions qui disent Danel? Danel, c'est français courant, voilà. Eh bien, c'est la bonne traduction.
En latin, il précise qu'il ne s'agit pas du Daniel du livre de Daniel.
Absolument. Alors, le Daniel du livre de Daniel a justement le i. Et en revanche, ici, c'est bien Danel, donc. Il n'y a pas les mêmes consonnes. Et on peut aller plus loin par rapport à Rachamra Ougarit, en disant que c'est effectivement sur des manuscrits du deuxième millénaire, donc bien avant l'écriture d'Ézéchiel. En citant Rachamra Ougarit, ça permet de faire un petit clin d'œil à Pierre Bordreuil, qui était un grand connaisseur de Rachamra Ougarit et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Le texte d'Ézéchiel, maintenant c'est peut-être Abigail qui pourrait nous le confirmer, mais je pense qu'il y a une correction des Massorètes pour suggérer une vocalisation en Daniel, mais le texte originel c'est bien Danel. Et alors, dans la légende phénicienne, Daniel se distingue par sa vertu, par sa sagesse. Donc, il est à l'image de Job et de Noé. Et il perd son fils, comme Job. Et c'est précisément le point qui va importer à Ézéchiel, et on le verra notamment au verset 16. La descendance du juste, si elle est coupable, ne peut pas bénéficier de ses liens de sang. Elle ne peut pas bénéficier de ses liens de parenté. Et à plus forte raison, le pays, la terre dans son ensemble, ne peut bénéficier de mérites qui échoient à des individus. Alors, on a ici une belle collection avec Noé, Daniel et Job. Noé que l'on retrouve aussi dans l'épopée de Gilgamesh, par exemple. C'est-à-dire que, moi, dans mon hypothèse, Ézéchiel n'a pas de texte sous les yeux. Enfin, n'a pas de texte biblique. Il a les écrits du bassin dans lequel il est. Donc, il a effectivement Noé, parce que l'épopée de Gilgamesh a quelqu'un qui est l'équivalent de Noé. Et Job, on le trouve aussi dans le folklore édomite, dans le pays de Ouch. C'est vers l'est. Oui.
Dans ce long, là, il y a une note. Je précise que dans un texte phénicien plus ancien que le livre d'Ézéchiel, Daniel est un sage de l'Antiquité atteint par le malheur. Il perd son fils.
En fait, c'est un peu ce que je viens de dire, oui.
Oui, ça confirme.
Oui, ça confirme. Amen. Très bien. Bon, alors si l'édition de la Bible Second confirme les données d'Edouard Dorme, tout va bien. Donc, effectivement, Racham Raugarit, c'est là où on trouve un alphabet cunéiforme qui est à l'origine de l'hébreu. Hein, c'est un alphabet, alors qu'on a beaucoup de langues qui sont syllabiques. Donc l'alphabet, c'est avec des lettres et pas avec des syllabes. Et c'est cunéiforme parce que c'est avec, disons, des pointes. Et ça va se transformer en une écriture plus arrondie jusqu'à celle que nous connaissons avec l'hébreu dit carré maintenant. Donc, trois figures de justes qui ne sont pas israélites, qui connaissent le malheur, qui sont affrontés au malheur, et à qui il est fait justice, mais pour lesquels la succession n'est pas assurée de façon automatique. On pourrait dire que ce n'est pas aussi évident avec le Noé biblique, puisque les enfants de Noé sont sauvés avec lui. Mais les contemporains de Noé ne sont pas du tout sauvés du déluge. On dit que la méchanceté l'emporte, et juste Noé sera sauvé. Ensuite, Job perd toute sa famille, hein, vous savez, enfin quasiment. Et quand à la fin, heureuse, il y aura une sorte de restauration de la famille, il ne retrouvera pas ses enfants du départ. Ce sont d'autres enfants qui naîtront. Donc il n'y a pas une sorte de mise entre parenthèses. Cela est l'occasion de dire que, outre Ézéchiel, d'autres courants de pensée envisager déjà ce que je vais appeler une responsabilité individuelle ou personnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bénéfice des mérites de ses ancêtres. Et puis on verra avec Ézéchiel 18, on n'est pas non plus au malheur ou à la malédiction des défauts de ses ancêtres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'influence des justes illustre peut être vaine sur le cours de l'histoire. Il peut y avoir des justes qui n'arrivent pas à infléchir le cours de l'histoire. Et quand je dis juste, je pense notamment aux justes devant les nations. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que quelques justes se lèvent pour que l'histoire connaisse, disons, une suite heureuse. Ça va être ici le cas. Après tout, il y avait quelques justes à Jérusalem. Cela n'a pas empêché Jérusalem de tomber. Et puis surtout, c'est le début de cette idée selon laquelle les justes ne sauraient être un oreiller de paresse. C'est-à-dire qu'au prétexte qu'il y a des justes dans la famille, je serai dispensé d'une responsabilité personnelle. Et la famille, ça peut être une famille élargie au sens ecclésial du terme, c'est d'ores et déjà une disqualification du principe des indulgences. Je ne peux pas aller puiser dans le trésor accumulé par les justes qui m'ont précédé une sorte de blanc-seing pour me comporter comme un gougnafier. Donc, on a ici un prêtre, Ézéchiel, qui puise dans la littérature disponible à son époque des figures éminentes qui vont lui permettre d'asseoir la suite de son raisonnement. Nous sommes au verset 15. Si je fais passer les bêtes mauvaises ou sauvages par le pays et qu'elles le dépeuplent et qu'il soit devenu une désolation en sorte que personne n'y passe à cause de ces bêtes, ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui ? « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. S'ils délivraient fils ou fille, eux seuls seraient délivrés et le pays sera une désolation. » Phrase légèrement tarabiscotée. C'est là aussi toute la difficulté d'une bonne traduction. Vous savez que si on veut qu'elle soit fidèle au texte, parfois ça suppose de tricher un peu avec la langue française. Et si on veut qu'elle soit compréhensible sur la langue française, des fois, elle n'est plus forcément fidèle à l'original. Donc on va y revenir. C'est une phrase que vous retrouvez dans le milieu du 4 pages, en fait. C'est là où il y a un petit peu de grisé et de souligné. En fait, j'ai grisé et souligné pour vous montrer que on reprenait à chaque fois la même rhétorique. J'ai souligné des figures récurrentes. Et puis j'ai surligné les quatre fléaux, en fait. Donc, s'il délivrait, ça ne changerait pas grand-chose. Et puis, il y a à chaque fois ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui, que je n'ai pas souligné, mais que vous retrouvez assez facilement. Donc, les bêtes sauvages, on les a dans le passage du Lévitique 26, au verset 22, « J'enverrai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants et détruiront votre bétail et réduiront à un petit nombre et vos chemins seront désolés. » Ce parallèle pour aller dans le sens de la mention du prophète Agé. Vous voyez, il ne s'agit pas de détruire complètement, il s'agit de réduire, de minorer. Il y a une raison à cela, je pourrais vous la faire chercher dans Lévitique 26, mais ça risque d'être un poil long. En fait, tout est expliqué au verset 19, qui est la clé d'interprétation. C'est-à-dire que la clé d'interprétation du texte de Lévitique est dans le verset 19, qui est aussi la clé d'interprétation d'Ézéchiel 14 et d'Ézéchiel 18. Et de quoi s'agit-il ? « Je briserai l'orgueil de votre force. » Vous voyez ? C'est-à-dire que face à l'orgueil, on met en place une pédagogie de l'humilité. Donc, à la fois, on réduit la nourriture et on réduit aussi la descendance et la densité de la population. On fait des coupes claires, en quelque sorte, de façon à créer une espèce de choc. Alors, c'est un texte. C'est un procédé littéraire, c'est une parole qui est adressée, ça ne veut pas dire que c'est un fait historique. C'est-à-dire, quand je dis pédagogie, qui doit conduire à une sorte de prise de conscience, c'est qu'il s'agit de faire en sorte que le lecteur se mette en situation de vivre cela, qu'il mentalise cette scène qui pourrait très bien se jouer s'il persiste sur sa voie. C'est-à-dire que c'est une manière d'aider le lecteur que nous sommes à nous projeter dans la conséquence de nos actes et à envisager, à imaginer ce qu'il adviendrait si nous continuions à commettre l'iniquité. Ça ne veut pas dire que le divin envisage d'agir tel qu'il le dit. Et quand je dis cela, je ne veux pas dire que nous avons un divin qui ne tient pas parole. De même qu'un enfant qui entend son père le menacer ne doit pas envisager que son père ou sa mère ne tient pas parole au prétexte qu'il agira finalement autrement. C'est que cette parole est destinée à projeter un petit peu le futur possible, à prendre conscience de ce que peuvent provoquer nos actes. Donc, les bêtes féroces s'ajoutent à la famine et c'est un signe de plus de dérégulation. En disant que c'est un signe de plus de dérégulation, c'est une façon de dire que la pédagogie qui est mise en place ici, c'est de prescrire le symptôme. C'est-à-dire que face à une situation de dérégulation, c'est-à-dire face à une injustice galopante, face au fait qu'on voilà, on fait plus attention à l'autre, tout simplement, eh bien, on met en scène une sorte de dramatisation d'une situation pour laquelle il ne fait pas de doute que c'est vraiment une dérégulation. J'essaie de le dire autrement. On peut considérer que, après tout, l'incivilité au quotidien, ce sont des petites choses. Ce n'est pas si grave. Et prenons l'exemple le plus faible qui soit. Le fait que quelqu'un ne vous dise pas merci, après tout, ce n'est pas ça qui va changer le cours du monde. Mais par un jeu de domino, de fil en aiguille, si on autorise cela, on peut autoriser la suite, etc. Et ce que fait le texte ici, c'est d'envisager la radicalité de cette permissivité, finalement. Et donc, une dérégulation du champ social, où on ne respecte plus l'autre, ça conduit à ce genre de dérégulation qui, là, est, comment dire, une dérégulation vraiment comprise par tout le monde. C'est-à-dire que quand on n'a plus de quoi se nourrir, quand nos enfants meurent, etc., là, on est d'accord pour dire qu'il y a un problème. Oui. Donc, après, l'idée, c'est que en remontant le fil des causes et des effets, on en arrive à dire « oui, ça, c'est déjà pas acceptable, finalement. » J'ai perdu personne pour l'instant ? Les petites choses ont leur importance. C'est un principe juif. Hein. C'est pour ça que Hanouka est célébré, par exemple. Hanouka, c'est le fait qu'une petite chose peut avoir de très grandes conséquences. Une petite fiole, de rien du tout trouvée comme ça dans le temple purifié, peut en fait brûler pendant 8 jours alors qu'elle a été prévue pour brûler un seul jour. Il y a aussi des petites choses positives qui ont des grandes conséquences. Donc, l'idée de ces bêtes sauvages dans les textes bibliques, c'est aussi une figure animale de la violence humaine. Du coup, c'est l'homme qui s'inflige à lui-même le résultat de ses actes. Le verset suivant, donc le verset 16, on a toujours la même rhétorique. « Ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui ? Je suis vivant, dit le Seigneur. Ça ne va pas changer grand-chose. »
Est-ce que
oui.
On peut faire une observation
oui.
au propos de la répétition
oui.
continue
oui.
« Je suis vivant
oui. »
Et on le retrouve jusqu'au bout, ce « Je suis vivant
oui. »
jusqu'au bout du livre d'Ézéchiel. Au chapitre 33, il dit toujours « Je suis vivant. »
C'est...
Est-ce que c'est pour faire un contraste? Est-ce que c'est...
C'était presque le terme. C'est pour faire un contrat. C'est qu'en fait, c'est le genre de titulature qu'on retrouve dans les contrats, qui permet de qualifier les partenaires. Ça, c'est une chose. Il y a une sorte d'alliance, en fait, qui est en train d'essayer de se renouveler ici. Donc, ça peut être un des termes du contrat. On qualifie le contractant. Et puis, il y a surtout, surtout cette idée de dire... Moi, je suis du côté de la vie. C'est-à-dire que S'aligner sur mes préceptes, c'est ce qui conduit à la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le vivant au sens « je ne suis pas mort » qu'au sens « je suis vivificateur ». Je suis le vivant, mais je suis celui qui rend vivant aussi. C'est-à-dire que si on prenait les catégories de Heidegger, on dirait « je suis le fondement de la vie ». Pour essayer de le traduire aujourd'hui. Je suis le vivant, c'est celui qui rend vivant aussi. Est-ce que ça répond à ta question ? Oh, je sens la satisfaction. Alors ça, je suis d'accord. Peut-être que le « peut-être » est même un euphémisme. Il y a nécessairement d'autres réponses que celle-là.
Je suis là et je suis là.
Je suis là, c'est pas mal aussi. Hein. C'est-à-dire que...
Je suis toujours là.
Ouais, oui, au sens où on ne peut pas faire abstraction de moi, ça c'est une chose, mais je pense qu'on peut l'entendre de façon encore plus positive, c'est je suis présent à ton présent. Et du coup, je me rends présent à toi. Ouais.
Si on fait une comparaison avec Moïse...
Oui.
Quand Moïse interroge Dieu en disant « Mais qui es-tu ?» Dieu répond « Je suis celui qui suis ».
Oui.
Une façon de se nommer.
Oui, c'est une autodésignation.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, quand l'Éternel dit « Je suis vivant », c'est une façon de se nommer.
Oui, bien sûr, on peut le dire. C'est une façon de se nommer comme on le fait pour les prises de serment, en fait. C'est, j'allais dire, c'est assez classique, mais c'est pas péjoratif quand je dis que c'est assez classique.
Si ce nommait, dirait je suis le vivant.
Ben non, parce que dans ce cas-là, il cesserait de l'être, parce que ça serait une objectivation. C'est-à-dire que plutôt de dire que je suis l'amour, il dit je suis amour. Je suis aimant, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans le registre de l'être et pas de l'avoir. Ouais. On ne peut pas m'évacuer. Il y a de la place pour évacuer quand même. Mais bon, je ne vous recommande pas d'aller sur cette piste-là. Je continue un petit peu. Ou si je... Oui ? Oui, bien sûr.
Pourquoi la combinaison ici, Nehum Adonai Hashem ? Alors... Les deux, en fait.
Ben, la combinaison de l'oracle, en fait, c'est qu'on est quand même dans un livre prophétique et que le Nehum Yahou, c'est la façon classique de dire cette parole qui s'adresse au prophète. C'est à cela, d'ailleurs, qu'on reconnaît les livres prophétiques. Est-ce qu'il y a en fait une autre question derrière ce que vous me demandez ?
Non, il me semble qu'il y a un dédoublage ici, parce que normalement, Nehum Adonai, ça suffit.
Oui.
Ou bien Nehum Hashem, mais les deux, c'est trop. Parce que...
on le retrouve aussi dans...
Là aussi, si on veut prononcer Hashem comme Adonai, ouais. Nehum Adonai, c'est bien bizarre.
Oui, c'est bien de ne pas prononcer Hashem par Adonai. Et de garder Adonai pour Adonai. Adonai, en fait, ça veut dire Seigneur. On l'a dans la couche sacerdotale du livre de Josué, au moment où le peuple hébreu entre en terre promise et qu'on parle de l'arche d'alliance. C'est l'arche d'alliance de Hachem, le Seigneur de toute la terre. Donc, Hachem, Adonai de toute la terre. Et ici, on est dans cette perspective de qui est Seigneur ? Et c'est pour ça que ce n'est pas redondant, parce que dans la perspective de l'auteur, Adonai ne se réfère pas à Hachem. Hachem, il faut quand même qu'on précise les choses, sinon ça va être un discours entre deux personnes. Donc, vous savez, le nom propre de Dieu, on ne le prononce pas dans la tradition. Donc, on lui donne une autre vocalisation, et alors, souvent on dit, il faut le prononcer Adonai. Quand vous entendez Adonai, du coup, c'est en fait le nom propre de Dieu. Sauf qu'en fait, Adonai, c'est un autre mot qui veut dire « mon Seigneur ». Et quand on regarde la vocalisation qui est appliqué au nom propre de Dieu, le fameux tétragramme qu'on translittère YHWH. En fait, ce sont les lettres araméennes de Hachem, qui veut dire le nom. Le nom, c'est une belle façon de désigner Dieu. Et du coup, pour Ézéchiel, par exemple, il n'a pas idée que Adonai s'appliquera ensuite exclusivement à la façon de nommer le divin. Donc pour lui, il n'y a pas une redondance, peut-être une surdétermination, mais dire Hachem Adonai, donc le nom propre de Dieu, mon Seigneur ou Seigneur, c'est une façon d'utiliser Seigneur pour dire le rapport que Dieu entretient là avec son peuple. Et comme on est dans un registre éminemment historique et politique, où la question est de savoir qui dirige l'histoire, parler de Dieu comme du Seigneur, c'est parler de Dieu comme de celui qui peut donner une orientation à l'histoire. Et on le verra avec chapitre 18, quand il dira « Les âmes sont à moi », ça signifie que je suis le Seigneur des âmes, donc en fait, je suis celui qui a autorité, non pas au sens du pouvoir, mais celui qui peut autoriser les gens à vivre. Bon, j'espère que je n'en ai pas trop perdu là. Parce que ce n'est pas facile le Hachem et le Adonai du coup, hein, quand on n'a pas bien les choses en tête. Mais souvent, on a parlé du tétragramme, donc on considère que ça va. Ça va ? On continue ? Ça marche. Alors, ensuite, on a l'épée au verset 17. L'épée, on l'a dans Lévitique au chapitre 25. « Je ferai venir sur vous l'épée qui exécute la vengeance de l'Alliance. Et quand vous serez rassemblés dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés en la main de l'ennemi. Et la peste, vous l'aurez au verset suivant, le verset 19. Comme si la guerre ne suffisait pas, il faut aussi envoyer les femmes. La peste. Alors, une petite chose sur l'épée. Vous voyez, dans le livre du Lévitique, c'est bizarre. On relie l'épée à la vengeance de l'Alliance. Alors ça s'explique en fait assez bien quand on connaît le rituel de conclusion de l'alliance. Conclure une alliance, je le disais hier je crois, ça se dit karat, enfin karat berit, c'est-à-dire couper l'alliance. Parce que comme vous le voyez dans Genèse 15, quand Abraham et Dieu font alliance, on prend les animaux, on les coupe en deux, et les deux partenaires de l'alliance passent au milieu des animaux. Et en fait, c'est un rite d'imprécation. L'imprécation est la suivante. S'il y en a un qui enfreint l'alliance, alors il se retrouvera coupé comme les animaux. On a ça aussi chez Jérémie. Et donc, la vengeance de l'alliance, vous voyez, tout de suite, vengeance, on se dit, voilà, tu me donnes une claque, je t'en rends deux, etc. Mais c'est qu'en fait, il est prévu dans le traité qu'en cas de défaillance vis-à-vis des termes de l'alliance, on reçoive comme sanction de connaître le même sort que les animaux qui ont été coupés en deux. Donc la vengeance de l'alliance avec l'épée, c'est extrêmement compréhensible. On n'a pas respecté l'alliance, du coup, on subit les termes du contrat que l'on a conclu. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, hein, mais c'est pour vous expliquer la mécanique, la logique. Voilà. Quant à la peste, eh bien, vous voyez ce qu'il en est. Alors vous me direz, est-ce que là on n'aurait pas deux éléments qui ont tendance à vouloir éradiquer tout ? Je dirais non. Le verset 17, j'y reviens un petit peu dans la langue hébraïque. Ce qui est étonnant, c'est qu'on dit que l'épée, en fait, va traverser dans la terre. Au sens du pays. Hein? Épée passe par le pays, en fait, c'est épée traverse le pays. Et traverser, c'est avar. C'est ce qui donne le mot hébreu. Et alors, il ne faut pas trop donner de poids à ce que je vais dire, mais ce qui est étonnant, c'est que, finalement, celui qui traverse le pays, maintenant, c'est l'épée. Alors que c'est l'hébreu qui, par définition, doit traverser le pays. Et je reviens sur l'entrée du peuple hébreu en terre promise. On n'en finit jamais d'entrer en terre promise, parce qu'on n'en finit jamais de traverser le Jourdain. Donc on n'en finit jamais d'être un hébreu, un traversant. Et là, la seule chose qui traverse, c'est l'épée.
Est-ce que...
Oui.
On peut faire un rapprochement entre ces quatre menaces.
Oui.
Avec les plaies d'Égypte. Et est-ce que on pourrait considérer que c'est une façon métaphorique de parler au peuple et de faire des graduations dans les peines. Et que c'était dans l'esprit de l'époque, c'était la façon de se faire comprendre. Et je ne sais pas, là on prend des peines, des choses très concrètes. Si on pouvait transposer aujourd'hui, on dirait le système des contraventions.
Les points.
Oui.
En retrait de permis.
Au-dessus, il y a des peines en correctionnel. Et puis encore au-dessus, c'est des peines en assises. Quand on parle comme ça aujourd'hui, on voit des aggravations.
Oui, absolument.
Est-ce qu'on préfère ce rapprochement? Est-ce que dans l'esprit d'époque, il y aurait une graduation aussi dans les peines pour faire comprendre aux gens?
Alors, dans l'esprit de l'époque, il y a effectivement une gradation, mais on constate qu'entre Lévitique 26 et Ézéchiel, les peines ne sont pas dans le même sens. Donc, il y a on ne peut pas dire que là, il y a une gradation. En revanche, si vous voulez une gradation, il y en a une dans le livre de Samuel. Quand Samuel fait le dénombrement du peuple, cela déplaît fortement à Dieu. Et du coup, David va être puni. Ça déplaît à Dieu parce que compter le peuple, c'est en fait avoir la main mise sur le peuple. Et c'est se dire qu'on est capable de délimiter le peuple. Et alors, le divin va proposer trois peines possibles à David, et ce sera à David de choisir parmi ces trois peines-là. Et donc, on voit que dans cet épisode, il y a une gradation en fonction de ce que tu veux, effectivement, des sauterelles, de la peste, etc. Donc l'idée d'une gradation, oui, ça existe. Mais ici, le problème, c'est que ce texte qui est vraiment en parallèle avec Lévitique n'a pas le même ordre des peines. Donc c'est difficile d'y mettre là une gradation. J'aurais bien aimé, c'est toujours intéressant de dire il y a une gradation, mais là, l'honnêteté m'impose autre chose.
Quand
les quatre fléaux, là, ça conduit à la disparition de l'espèce?
Non, pas tous.
Bah en fait, non. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. C'est que ça pourrait donner l'impression que ça conduit à la disparition de l'espèce, et que ce coup-ci, c'est radical.
Et Dieu, par opposition, il a dit qu'il n'est pas du tout dans...
Alors, là, on est d'accord que chaque peine est contradictoire à la présentation Dieu vivant ou Dieu de la vie.
Si ce que font les hommes de tout temps, hein, ils ont eu
oui.
La vie, la guerre, les sauvages et la famine, ça conduit à la disparition de l'espèce.
En tout cas, ça peut, mais il s'avère que justement, il s'agit de maintenir un reste. Oui. Mais ce que vous me dites là, ça fonctionne dans le registre où je suis en train de dire ce que je fais. Mais on n'est pas dans ce registre-là. On est dans le registre « je dis ce que vous faites ». Elle est là, la différence. C'est qu'en fait, Dieu n'est pas en train de faire une promesse, voire une promesse en l'air. Il est en train de dire « voilà ce que vous êtes en train de provoquer. » C'est une alerte. Oui.
Et
Une veille, ouais.
Ça marche encore.
C'est tout. Mais c'est toute la différence entre si tu continues à marcher sur ce muret, tu risques de tomber, ou tu vas tomber. Arrête, tu vas tomber. Vous voyez, en fait, dans les deux cas, on veut dire il y a un risque, et donc arrête de courir ce risque. Mais il y a une façon de le dire qui est claire, en disant c'est impossible, enfin c'est une des possibilités, et puis l'autre, c'est une menace, tu vas tomber, c'est quasiment là on prescrit la chute. Alors que dans l'esprit du parent, il ne s'agit pas de faire tomber l'enfant, il s'agit de l'avertir. Donc c'est une question là aussi de langue, enfin pas destination de l'hébreu que je dis ça, c'est la destination de notre compréhension.
Et puis c'est pas tout à fait l'extinction de la race humaine, puisque pour Noé, il y a quand même ses fils. Hein. Mmh. Job, il y aura une nouvelle famille. Mmh. Et pour le roi Daniel, il a une fille, parce que l'histoire dit aussi qu'il a une fille qui prend la place du fils, et donc qui prolonge la...
Elle prend pas la place du fils, mais elle prend sa place.
Elle a le même courage.
Oui, ouais, d'accord. Mais effectivement, c'est pas la fin de l'histoire pour autant. Mmh. Ah oui. Et donc, le verset 21 dit en fait ce qu'il en est. Et vous voyez, ce ne sont pas des punitions, ce sont des jugements. Alors il faut être précis là-dessus. Parce que quand on dit juger, on entend tout de suite condamner. Mais un mishpat, c'est-à-dire un jugement, c'est l'occasion de dire la vérité. De dire où est la culpabilité, de dire qui est la victime, et ensuite d'en faire quelque chose. Le but de la justice, ce n'est pas d'abord de punir et de condamner. D'ailleurs, on peut très bien avoir une justice où il n'y a pas de punition. On peut avoir des enfants qui considèrent que ce qui n'est pas juste, c'est qu'on n'est pas toujours la même punition. Mais pour l'adulte, ce qui est juste, c'est d'abord que le droit soit redit. Et qu'il puisse y avoir une prise de conscience dans le meilleur des cas. D'ailleurs, quand il y a des affaires pénales, souvent, l'une des premières demandes de la famille, ou le premier espoir de la famille, c'est que le coupable reconnaisse ses torts. Dans un deuxième temps, éventuellement, les regrette. Bon. Mais la première chose, c'est qu'il n'y ait plus de doute sur le fait que l'un est la victime et l'autre l'agresseur. Et qu'un mal a été commis. Un mal a été subi aussi. Souvent, le mal subi est difficile, d'ailleurs, à reconnaître. Par exemple, dans les familles, dans les couples, la question du harcèlement moral s'est reconnue depuis pas si longtemps que cela. Oui. Parce que c'est pas aussi tangible une blessure, une fracture ou quelque chose comme cela.
Est-ce que, à propos du verset 21-22,
oui.
Il n'y a pas quelque chose dans le verset 22 extrêmement important pour la foi, il y aura néanmoins un reste qui échappera,
oui.
On sortira.
Oui.
C'est quelque chose qui traverse tout l'Ancien Testament, ça, et puis qu'on pourrait, je ne sais pas, dans l'espérance... On peut presque assimiler ou comparer à la vie éternelle, à l'espérance de la vie éternelle. Là, c'est l'espérance, quoi qu'il arrive, il y aura un reste. Ça veut dire que la vie va continuer.
Alors, j'espère que vous avez tous bien écouté, parce que François vient de nous faire une lecture bultmannienne d'Ézéchiel. Vous voyez ? La lecture kuhlmannienne consiste à dire, là on parle des réchappés qui vont constituer le deuxième exil. C'est-à-dire qu'une première partie du peuple a été exilée à Babylone en 597, estimation, et puis Jérusalem tombe vraiment en 587, et donc il y a une deuxième vague de déportation. Et c'est peut-être ces personnes-là qu'Ézéchiel voit arriver. Et effectivement, il y a un reste. Ça n'a pas été entièrement détruit. Donc, lecture kuhlmannienne au sens de le fait historique perceptible dans le texte biblique, c'est celui-là. La lecture boltzmannienne, c'est quel est le message qui jaillit de ce texte, mais pas le message d'autrefois, le message pour moi aujourd'hui. Eh bien, je ne saurais dire mieux que ce que François a dit. Donc j'espère que vous avez bien écouté. Bon, manifestement, c'est enregistré, mais... Alors, Kuhlmann, c'est C-U-2-L-M-A-N. Je pense qu'il n'y a pas deux N. Bon, c'est Oscar Kuhlmann. Et Bultmann, en revanche, c'est un L et deux N. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas les deux. Donc, Kuhlmann, qui a un œil attentif sur l'historicité, et Bultmann, qui a un œil attentif sur la prédication. Et le verset 22, d'ailleurs, est intéressant parce qu'il y est dit qu'ils sortent vers vous. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un exode. Alors, c'est intéressant parce que l'exode, c'est extrêmement positif. L'exode, c'est la sortie d'Égypte. Et là, en fait, c'est la sortie de Jérusalem. On peut prendre ça comme un malheur. Ézéchiel prend ça comme un bonheur, en utilisant le terme de la sortie. C'est Yatsa. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que il va même peut-être voir dans la figure de cette deuxième vague d'exilés la figure du Messie. Alors, je vous dis ça tranquillement, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais ce que je relève, c'est que le Messie, c'est celui qui vient. Dans la tradition, le Messie, c'est celui qui vient. Par exemple, dans la bénédiction de Jacob sur Judas. C'est de Judas que doit sortir le Messie, et c'est celui qui vient, Shiloh. C'est la figure du Messie. Une hypothèse, hein. Vous avez le droit de la travailler. Donc, ils sortiront vers vous, vous verrez leur voie et leurs actions, et vous vous consolerez du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Donc, ici, il y a le joli mot « naram », qui signifie la consolation, consoler, « naram ». Consoler du mal que Dieu fait venir sur Jérusalem. C'est une façon de dire que Dieu serait l'organisateur du malheur de Jérusalem, peut-être pour la punir. Et du coup, on aurait peut-être là la vision d'un Dieu qui punit. Ailleurs, dans les textes prophétiques, on a l'impression d'avoir un Dieu qui instrumentalise les autres nations contre Jérusalem, contre Israël. Autrement dit, une sorte de Dieu qui manipule les uns et les autres pour en faire des instruments de sa propre justice. On va voir ce qu'il en est dans le chapitre 18. Est-ce que déjà sur cette première section, vous avez des questions, des remarques, des commentaires ? Autre ? Oui ? Oui ? Non, ce sont des pratiques très bien attestées, aussi bien en Palestine que dans le Proche-Orient ancien.
Pratiques attestées dans le Proche-Orient ancien.
Oui. Oui, oui.
Ce n'est pas spécial à la Bible.
Ah non, on le trouve en dehors des textes bibliques, dans les formules de contrat. D'accord. Il y a notamment un texte très utilisé avec un certain Mahilou, et dans lequel il dit que non seulement, de mémoire, hein, non seulement on sera coupé en deux, mais en plus on finira avec la patte dans la gueule, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est absolument attesté en dehors de la littérature biblique. Evelyne.
Oui, en effet, j'avais remarqué que dans la répétition toujours de « je suivant, le suivant,
oui.
Le suivant », il y a quelque chose de messianique dans cette écriture, dans ce style. Et ça, c'est intéressant quand même. que vous avez dit et ce que quelqu'un d'autre a dit aussi. Hein. Est-ce que c'est un message messianique?
Vous pouvez le prendre comme un message messianique. Je ne dirais pas forcément que Ézéchiel l'avait en tête. À mon avis, c'est à partir du texte d'Ézéchiel qu'on va penser la question de la messianité. Parce que quand je disais qu'il faut rester calme avec cette hypothèse de Messie, c'est parce que le messianisme va s'élaborer au fil de la déportation, et notamment sous la plume d'Ésaïe. Et Cyrus, par exemple, pourrait être une figure historique qui incarne cette idée du Messie. Mais dire que je suis vivant, c'est quelque chose qui signifie la messianité, c'est une interprétation possible, mais a posteriori. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment portée par le texte. Parce qu'en fait, je présume que vous vous dites, ça ressemble à des choses comme « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce qui est du coup pas tout à fait la même formule, parce que c'est « ego eimi », et du coup, ça serait plutôt « ani rai » et... Bon, difficile de pouvoir l'attester comme tel. Je pense que c'est plutôt le messianisme qui se constitue sur ce genre de texte, plutôt que ce genre de texte qui a l'idée de forger le messianisme. Alors, on retrouve la même formule. La parole de l'Éternel vint à moi, donc c'est pareil, hein, il advint une parole de l'Éternel vers moi, disant... Que voulez-vous dire, vous qui utilisez ce proverbe? Alors cette fois, c'est la terre au sens de Adama. C'est plus Aretz, c'est Adama. Sur la terre d'Israël, en disant, les pères mangent du raisin vert et les dont des fils sont agacés, c'est-à-dire elles sont gâtées, elles sont carriées. Donc, vous voyez, c'est un proverbe que vous pouvez garder, enfin, c'est sympathique, les parents ont mangé des raisins verts, les dents ont eu des dents agacées, les dents agacées, une formule poétique un peu. Eh bien, le verset 3... va engager une critique acerbe de ce proverbe. « Je suis vivant, dit le Seigneur », donc on retrouve notre auto-présentation, l'Éternel. « Si vous usez encore de ce proverbe en Israël, voici... » Alors là, c'est intéressant. Donc, les âmes sont à moi, enfin, toutes les âmes à moi, comme l'âme du Père, aussi l'âme du Fils est à moi, et l'âme qui péchera, celle-là mourra. Donc l'âme, c'est la manière classique de désigner l'homme qui se tient devant Dieu. Et alors, là je vous pose une question qui n'est pas rhétorique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence de dire que tous les hommes sont à Dieu? Qu'est-ce que ça provoque, cette histoire? Est-ce que ça a un intérêt?
C'est-à-dire que chacun des hommes est la préoccupation de Dieu?
On peut le comprendre comme cela. On peut en tirer cette conclusion-là, en tous les cas. Mais je dirais que cette phrase peut avoir un bénéfice sur les relations entre les hommes. Quel peut être ce bénéfice?
On est tous frères.
Oui, ou tous co-esclaves, appartenant au même maître. C'est pas vraiment un rapport de filiation, là. suis sûr que vous connaissez ce texte qui s'appelle « Le prophète » de Khalil Gibran. Est-ce que vous l'avez forcément entendu à un mariage, un baptême, quelque chose comme ça? Bon. Ouais. Bon. Et donc, il y a effectivement un passage où il est dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Bon. Quel est l'intérêt de cela? C'est de sauver les enfants de leurs parents. Alors, il y a le lâcher prise, mais il y a aussi la libération vis-à-vis de ce que les parents imposent aux enfants. En termes de projection, par exemple, ou en termes de rapport fusionnel. Et donc, c'est à la condition de ne pas appartenir à nos parents que nous pouvons mener notre vie, et donc être responsable. Tant que nous appartenons à nos parents, en fait, notre responsabilité n'est pas engagée. D'où le droit des mineurs, par exemple. D'où le fait que jusqu'à ce qu'un de nos coreligionnaires change le droit civil, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire comme ça sans l'autorisation de son mari. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'appartient pas à quelqu'un, qu'on n'est pas madame, le prénom du mari et le nom du mari, eh bien, tant qu'on n'est pas libre, effectivement, on est complètement engagé par ce que l'autre fait ou ne fait pas. Il y a une sorte d'effet subi. Le fait de ne pas appartenir à nos parents fait que nous sommes libérés de ce qu'ils peuvent projeter sur nous, en termes de projets professionnels, de modèles familiaux, de catalogue éthique, etc. Et puis, du coup, on est appelé à répondre de ses actes, donc la responsabilité. Ça vous semble clair, ça? Ou... Oui. Bien. Ça vous semble bien aussi? Bien. Très bien. Ce qui est vrai pour les enfants est vrai pour les petits-enfants aussi, hein. Donc, toutes ces âmes sont à moi, et l'âme qui pêchera, celle-là mourra. Et en fait, voici en quatre temps comment les choses vont se jouer. Première hypothèse, un homme est juste. Et pourquoi il est juste? Parce qu'il pratique la justice. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise. Je violente le texte en disant ça. C'est pas parce que... qu'il pratique la justice, qu'il est juste, c'est parce qu'il est juste qu'il pratique la justice. C'est concomitant, en fait. Il est juste et il pratique la justice. Bien. Donc, il n'a pas mangé sur les montagnes. Ça veut dire quoi, il n'a pas mangé sur les montagnes?
Excuse-moi.
Oui.
En hébreu, c'est justice ou justification? Tu aurais qui traduit par justification?
Ben, pourquoi? Pourquoi? Alors que c'est Mishpat.
Ah, je sais rien.
Ouais.
Je sais rien.
Non, mais justification, je veux bien, mais c'est un thème paulinien, cette affaire.
Il dit l'homme qui est juste accomplit le jugement et la justification.
Justification? Je veux bien, mais c'est un terme quand même très moderne, hein, par rapport à ce texte. C'est une compréhension a posteriori, là encore, hein. Ah bah, c'est le mieux, oui.
Alors, c'est le mieux, mais c'est... qu'est-ce qui est probable? Enfin, qu'est-ce qui...
Justice.
Point.
Ah, juste, oui. Point.
Rien d'autre. C'est Sénéca, quand même. Pas Mishpat. Mishpat, c'est Sénéca.
Oui, mais la Tzedeka, c'est le fait de pratiquer la justice. C'est l'action juste, en fait, la Tzedeka.
Ah, bah, c'est pas la même chose.
Mais c'est pas la justification.
Non, mais la justice, c'est l'action juste, c'est la même chose.
Non, d'accord. Ouais, c'est qu'en fait, la mishpat, c'est aussi la question du discernement. C'est l'instance critique. C'est ce qui est juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de fraude parce qu'on a bien équilibré la balance, par exemple. Donc ça va être mishpat, la justice. Et puis ensuite, il y a tzedaka. ce qui est juste au sens où ce qui fait le bien. La justification, c'est quand on déclare quelqu'un juste. Mais ce n'est pas le cas là. Oui.
Et comme on est dans l'ordre bien politique,
oui.
La justification me semble un terme parfaitement juste.
La justification, c'est un terme que le lecteur impose au personnage.
Oui, mais puisqu'on est dans la justice et l'éthique,
oui.
En français, on n'a pas de mot coagulant les deux termes, sinon justification.
Si ce n'est que la justification, c'est un jugement de valeur. Et là, il n'y a pas de jugement de valeur.
Ah, le juste et juste.
Alors ça, c'est un jugement théologique. Oui, mais justement, on ne cherche pas à dire s'il est justifié par ou pas. On ne cherche pas à dire s'il est justifié. On dit juste, on dit qu'il agit avec discernement et pour faire.
La justice n'est pas forcément éthique.
Certes, mais le texte ne supporte pas ça.
Bah, d'après les deux mots utilisés en hébreu.
Oui. Non, parce que par exemple, le chauffette, donc le juge, c'est celui qui va discerner le bon du faux témoignage.
Le juge n'est pas injuste.
Non, mais je parle du jugement.
Oui, c'est que le juge n'est pas nécessairement pas juste.
C'est celui donc qui est capable de dire la justice.
La loi.
La justice. Et donc, pour ce qui est ensuite du faire, là, ça va être de l'ordre de la tzedaka. Mais la justification n'intervient pas là.
Et si la justice s'oppose à l'éthique ?
Ben, une fois de plus, ce n'est pas pris en charge par ce texte.
Oh ben alors.
Là, on en est à la traduction. Moi, je veux bien faire dire beaucoup de choses au texte, mais le texte ne se joue pas sur ce registre-là pour l'instant.
Est-ce que je pourrais vous demander de régler votre querelle sur un autre moment, parce que là, on ne vous suit plus du tout.
Donc, s'il n'a pas mangé sur la montagne. Ben, ça veut dire qu'il n'est pas allé sur l'équivalent des hauts lieux. Mais la montagne, c'est symboliquement les lieux où on était au contact de Dieu. Dans la perspective où il y a eu un culte centralisé à Jérusalem, aller sur les montagnes, c'est aller dans un lieu hétérodoxe. Et donc, c'est le début de sacrifier aux idoles. S'il n'a pas d'ailleurs levé les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, c'est-à-dire que ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur. On se souvient que du temps de Salomon, le temple était rempli de choses pas forcément très orthodoxes. Il y a une hypothèse sémantique d'Éric de Putter qui est de dire que Giloli. Ça se construit sur la racine galal qui est l'excrément, et que donc les idoles, ce sont les excréments. Dans les deux cas, l'intérêt, c'est d'y voir qu'on adore des productions humaines. Qui valent ce qu'elles valent, mais c'est au niveau de la forme, en fait, qu'il y a une analogie. Vous voyez ? Parce que galal, c'est roulé aussi. Enfin bon, après, je vous passe les détails, mais. C'est ceux qui, en fait, adorent les productions humaines. On pourrait avoir ici le début d'une critique de Jacques Ellul sur la technicité, qui devient une sorte de dieu pour l'homme.
C'est curieux cette expression « lever les yeux vers les idoles ».
Attendez que je me mette debout, vous comprendrez mieux. Vous savez, quand vous êtes devant le totem, tout de suite, lever les yeux vers l'idole, ça a plus de sens. Si vous êtes dans une église et que vous avez quelques statues qui traînent, vous comprenez aussi de quoi il est question. Une sorte de démesure aussi.
C'est un peu contradictoire, le début du verset et la suite.
C'est pas le 1er avril aujourd'hui. Hein.
Qui ne mange pas sur les montagnes.
Oui.
Alors on pourrait dire, effectivement, si la montagne c'est la métaphore de Dieu. Enfin,
non, c'est la métaphore de l'autel en fait. En fait, c'est l'autel qui est la métaphore de la montagne, pour être très précis.
Enfin, voilà. Le regret, c'est de pouvoir manger, de ne pas pouvoir manger sur la montagne, c'est ça comme ça
que je... Non, c'est pas un regret. C'est que si on mange sur la montagne, c'est-à-dire qu'on fait un sacrifice sur un lieu qui n'est, de culte qui n'est pas le lieu de, qui n'est pas Jérusalem, ça veut dire qu'on est en relation avec un autre Dieu que l'Éternel. Puisqu'il y a eu une centralisation du culte, avec une très forte polémique contre les hauts lieux, justement, les autres sanctuaires.
Alors il y a un rapprochement entre les idoles et puis manger sur la montagne.
Oui, c'est la continuité en fait. Les hauts lieux, c'est en dehors du temple. Et là, ça peut être dans le temple. C'est-à-dire qu'on peut être sur place, on peut être à l'oratoire du Louvre et avoir une pratique pas très louable. Bah, ça, c'est compréhensible. Ensuite, on est sur un registre plus éthique, avec le fait de ne pas rendre impure la femme de son prochain. De ne pas s'approcher d'une femme, en fait, c'est pendant ses règles. Ça, c'est une traduction française. Mais c'est peut-être autre chose dans votre Bible. Vous avez quoi dans votre Bible ?
Son indisposition.
Oui, c'est super clair. Ça, c'est pour les carnets d'excuses au collège. Indisposé, ouais. Oui.
Chapitre 15, 24.
Oui. Quand une femme sera indisposée, elle ira ensuite au mikvé, etc. Oui. Bah, Nida, c'est les règles, en fait. Hein. Les règles physiologiques.
Lévitique, là, c'est traduit le flux
menstruel. Oui, mais tout simplement, c'est pas.
Oui. Surtout en fin de cycle, oui.
Mais tout simplement, c'est.
Pour la clarté.
C'est
ça, c'est un singulier, là. Mais bon, oui, oui.
Le phénomène physiologique.
Oui, oui, d'accord. Oui, bon, c'est bon. Tout le monde a compris. Donc, la séparation, c'est une autre figure de style. Hein. Donc, c'est effectivement un moment pendant lequel, comme il y a des écoulements de sang, s'approcher de la femme et avoir des relations sexuelles avec elle, c'est donc être au contact du sang et donc ça crée de l'impureté. Ensuite, on est sur un registre plus éthique sociale. Donc, s'il n'a opprimé personne, s'il a rendu le gage de sa créance, n'a pas commis de rapine, a donné son pain à celui qui avait faim et couvert d'un vêtement celui qui était nu... C'est là que je vous ai mis sur la feuille la citation d'Ésaïe 58, versets 6 à 7, que j'utilise parfois pour la volonté de Dieu. N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi ? Qu'on rompe les chaînes de l'iniquité, qu'on fasse tomber les liens du joug, qu'on renvoie libres les opprimés, que vous brisiez tout joug ? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim ? Que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile ? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair. Donc, que tu ne te dissimules pas à ton frère, par exemple. Donc, vous voyez, on est dans un registre assez semblable sur ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire qu'on a ici une formule qui n'est pas une pure création d'Ézéchiel, qui est quelque chose qui est dans l'air du moment et qui le formalise. Donc, il a fait tout ça très bien, il n'a pas de données à intérêt, il n'a pas pris d'usure, il n'est donc pas calviniste, et s'il a détourné sa main de l'iniquité, a rendu un jugement juste entre homme et homme. Donc là, on est bien dans le Mishpat de vérité, Mishpat Emet. Il a marché dans mes statuts et a gardé mes ordonnances pour agir fidèlement. Donc, celui-là, vous l'avez compris, et juste. Certainement, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, celui-là est juste, il est tzaddique, notamment celui qui a rendu un mishpat vrai. Mais alors, là, on rentre dans la casuistique. Verset 10. Cet homme juste, hein, juste parmi les justes, s'il a engendré un fils qui soit un homme violent, qui verse le sang, et qui fasse seulement l'une de ces choses. Alors, là, il y a une difficulté de traduction. Moi, je ne suivrai pas Louis II sur ce coup-là. Il me semble que le début du verset 11, ça pourrait s'appliquer plutôt au père. Ça veut dire que le verset 10, ça serait... Si le père a engendré un fils qui soit un homme violent, qui verse le sang et qui fasse seulement l'une de ces choses, lui, de toutes ces choses, n'en faisant aucune, le père. Lui, le père, n'en faisant aucune. Alors on continue. Qui a aussi mangé sur les montagnes, a rendu impure la femme de son prochain, a foulé l'affligé et le pauvre, a commis des rapines, n'a pas rendu le gage, a levé ses yeux vers les idoles, a commis l'abomination, a donné un intérêt et a pris l'usure. Donc vous voyez, on a quasiment une symétrie, mais on n'a pas tout à fait le même ordre. Hein. Vivra-t-il ? Vivra-t-il ? Pourquoi ? Pourquoi il ne va pas vivre, lui ? Son père est super juste. Hein. Ok. Il ne vivra pas, il a fait toutes ses abominations, certainement il mourra, son sang sera versé sur lui. Ce qui est un poil compliqué parce que c'est dans lui en fait. Son sang sera versé dans lui, en hébreu. Ou contre lui. Parce que c'est le préfixe be, c'est dans, ça peut être contre éventuellement. Mais sur, c'est bizarre comme traduction. Est-ce qu'on a autre chose ?
Il sera responsable de sa mort.
Oui, mais c'est bien le sang dont il est question. Est-ce que vous avez une traduction avec sang et lui, et avec autre chose que sur lui ?
Ah ben, je crois qu'il son sang sera contre lui.
Contre lui, c'est mieux, oui.
C'est sur lui. Shuraki,
oui. Et là, c'est sur,
bon.
Contre, c'est mieux, hein. Ça veut dire qu'en fait, il vit contre lui. Sa vie, le sang, c'est la vie. En fait, il lutte contre la vie. Vous voyez ? La vie est contre lui. Il s'inflige une sorte de jugement. On va le voir un peu plus précisément après encore. Pardon ?
Il va à sa perte.
Il va à sa perte, oui. Il court peut-être même à sa perte. Verset 14, on a le cas inverse. Mais voici, si le juste a engendré un fils... Si le père a engendré un fils qui voit tous les péchés que son père a commis et qui prenne garde et ne fasse pas selon ces choses. Il n'a pas mangé sur les montagnes, il n'a pas levé ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il n'a pas rendu impure la femme de son prochain, etc., etc. Et celui-là, c'est le verset 17 à la fin, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, certainement il vivra. À son père parce qu'il a pratiqué l'extorsion, qu'il a commis des rapines, etc., il mourra dans son iniquité. Et là, où on a encore le préfixe « be », hein, donc « dans son iniquité » ou « contre son iniquité », « du fait de son iniquité ». Vous voyez, on distingue les responsabilités. On distingue les générations, mais surtout on distingue les responsabilités.
Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec cette fameuse. Ces versets qui disent que l'iniquité des pères se répandra pour les enfants jusqu'à la
combien de générations ? Combien de thèmes de générations ? Il faut le savoir, ça. Arrêtez d'être aussi vache, c'est troisième ou quatrième. Exode chapitre 20, verset 5. Oui, et non, ça change parce qu'il est gracieux pour 1000 générations envers ceux qui l'écoutent bien. Ouais, je veux bien, mais c'est quoi le verbe qui est utilisé au chapitre 20, verset 5 du livre de l'Exode? Je vous lis dans la traduction œcuménique de la Bible, qui n'est pas la bonne. Hein. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, un Dieu jaloux, Cana, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations s'ils me haïssent. Et verset suivant, m'éprouvant sa fidélité à des milliers de générations si elle m'aime et garde mes commandements. Alors déjà, ce n'est pas punir. Ici, c'est poursuivre. En fait, c'est pacade, c'est visiter. Poursuivre, c'est pas mal. Mais au fond, qu'est-ce que dit ce texte? Il dit que ceux qui m'écoutent, très bien, on laisse courir. Quant à ceux qui posent problème, eh bien, on ne les laisse pas indemnes. On va régler le problème avec eux. Mais pas au sens de liquider, au sens de visiter. Mais poursuivre, oui, peut-être tourmenter, mais en tous les cas, on va faire quelque chose. C'est un peu cette logique que l'on trouvera plus tard dans l'Évangile. Si tu as un grief contre ton frère, tu vas chez lui et tu en discutes. En fait, c'est de ça dont il est question ici. Exode, chapitre 20, versets 5 et 6. Oui. Vous avez quelle traduction, Christiane ? Tob, c'est poursuivre, c'est la nouvelle Tob, là, que vous avez.
Oui.
Et c'est quoi par rapport aux 3e et 4e générations ? Verset 5. Et le verbe, c'est quoi ?
Puni.
Oui, juste avant, s'il me haïsse. Le verbe...
Exigeant, poursuivant la faute des...
Poursuivant, oui, c'est ça. Un peu comme un procureur, finalement. Oui. On a des poursuites judiciaires. Bon, c'est pour dire que c'est pas aussi contraire. Ce qui est contraire, c'est en fait le fait qu'on puisse être miséricordieux pour 1000 générations. Là, c'est contraire. Et on va voir dans la suite que, effectivement, la miséricorde trouve un coup d'arrêt dès lors que on pourrait dire la haine, pour reprendre Exode, reprend ses droits.
Et ça va à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure à propos de la responsabilité individuelle.
Qu'est-ce qui va à l'encontre de la responsabilité individuelle ?
Le fait de poursuivre sur des générations
Alors non, ça ne va pas forcément à l'encontre. Je ne cherche pas à faire du concordisme biblique, mais que se passe-t-il dans une famille où les parents, effectivement, sont plutôt enclins au délit, etc. Les enfants ont ça comme modèle. Donc, les enfants ne sont pas indemnes de cela. Il se peut qu'ils s'en éloignent. Il se peut qu'ils fassent une sorte de demi-tour ou une teshuva. Mais rien ne dit qu'ils ne vont pas reproduire le modèle, voire l'amplifier. S'il n'y a pas là aussi une pédagogie qui est mise en œuvre pour, je dirais, éviter une répétition de scénario de vie, il y a de fortes chances que ça se reproduise. Et donc, ce que dit Exode 20, c'est que dans le cas d'une conduite délictueuse, s'il n'y a pas une intervention, et donc une visite ou une poursuite vers ces personnes-là, il y a peu de chances que ça change. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas une responsabilité individuelle. Parce que ce que ne va pas dire Ézéchiel, c'est que, par exemple, si le père est coupable et que le fils est coupable, les deux seront, en quelque sorte, punis. Et le texte d'Exode ajoute que tout en étant fautifs, ils ont droit aussi à un accompagnement. Ils ont droit bénéficier d'une sorte de suivi. Vous savez, on parle des fois de suivi thérapeutique. où on parle de suivi de peine de prison ou des choses comme cela. C'est-à-dire qu'une chose est de dire le droit, une autre est d'envisager une sanction, qui peut être éventuellement une réparation, et une autre encore d'envisager comment faire pour qu'il y ait un changement de conduite de la part du délinquant ou du criminel.
Donc il ne faut pas comprendre le terme de poursuivre, le verbe poursuivre, comme punir.
Non.
Il ne faut pas les assimiler.
En effet. Il faudrait plutôt comprendre poursuite comme, un, on n'est pas aveugle ou indifférent à ce qui s'est passé, et deux, on va engager une procédure pour un changement de comportement de la personne. On pourrait parler de justice restaurative, comme on le fait actuellement. Oui, Evelyne ?
Ou bien faire prendre conscience.
Oui, ou la prise de conscience telle qu'on l'a évoquée au début, oui. Dans tous les cas, il s'agit de mettre en œuvre quelque chose qui permettra aux délinquants ou aux criminels de dire « je » et de reconnaître son implication dans l'affaire, notamment. Et ensuite, de pouvoir, idéalement, passer à autre chose. Parce que si rien n'est engagé, alors, a priori, ça va continuer en l'état. Donc, c'est une façon de rompre un cercle vicieux. Et le principe de responsabilité individuelle que met en place Ézéchiel, c'est cela aussi. C'est laisser entendre aux enfants qu'ils peuvent ne pas suivre la mauvaise voie de leurs parents. Ou c'est laisser espérer aux uns et aux autres que leurs enfants réussissent là où eux ont échoué. C'est-à-dire que ce que cela permet, par exemple, un texte comme cela, c'est d'envisager pour un parent alcoolique que son enfant ne le soit pas à son tour. C'est aussi pour un enfant envisager qu'il pourra ne pas être pasteur comme tous ses grands-parents et arrière-grands-parents, etc. Qu'il n'est pas condamné. Ouais, ok, ça te semble moins grave, mais pour des enfants, ça peut être une catastrophe de devoir reprendre le flambeau familial. On peut le dire dans l'autre sens. Hein. Moi, j'ai eu un professeur de Nouveau Testament qui a dû faire toute sa médecine pour faire plaisir à son père avant de commencer la théologie. Une fois qu'il a eu son diplôme de médecin, il avait 30 ans, hein, il a dit, bon, ben voilà, maintenant je fais de la théologie, je fais ce qui me plaît. Oui. C'est-à-dire qu'il a quand même, je ne dis pas qu'il a perdu toutes ses années de médecine, mais bon, ça l'a quand même un petit peu entravé. Eh bien, si on étend le principe de la responsabilité individuelle de ce texte à d'autres domaines de la vie, ça peut être aussi ce bénéfice-là. On n'est pas condamné à ce que on appelle souvent les répétitions de scénarios de vie. Et alors, je disais changement de comportement, Evelyne redisait prise de conscience dans Exode 20. On le trouve évidemment dans Ézéchiel, au verset 21, déjà on évoque le méchant qui se détournerait de tous ses péchés, donc un changement de comportement. Et puis le verset 23 qui est assez explicite. « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ?» Et c'est justement la conversion, hein. C'est chouv, c'est une sorte de shavuot, teshuva. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ? Ensuite, le verset 24, on prend un autre cas. Enfin, au verset 21, c'est le méchant qui se détourne de ses péchés. Et le verset 24, c'est le juste qui se détourne de sa justice. C'est-à-dire que le tzaddik cesse d'être tzaddik. Et c'est intéressant qu'on envisage cela, parce que dans ce cas, eh bien, il est puni pour le nouveau péché. Comment on peut le comprendre? On le comprend au verset 22. Un verset un peu bizarre. « De toutes ces transgressions qu'il aura commises, aucune ne viendra en mémoire contre lui. Dans sa justice qu'il a pratiquée, il vivra. » C'est un peu bizarre. C'est cette idée selon laquelle il y aurait des forces actives. C'est-à-dire que ce verset 22, c'est une façon de dire que les fautes du verset 18 ou la justice du verset 19 exercent une sorte d'effet à la manière de forces indépendantes. C'est-à-dire que d'un côté la faute, de l'autre côté la justice sont comme des dynamiques à l'œuvre dans l'existence de l'homme. L'une fait mourir, l'autre fait vivre, mais la repentance a ceci pour effet que la justice l'emporte sur la faute. C'est-à-dire que la repentance a ceci comme effet de donner une impulsion plus forte à la justice. Et que du coup, ce qui servira de base à la théodicée de Wilfred Monod, on combat le mal par un excès de bien. La repentance, c'est ce qui permet de laisser au bien la possibilité de donner toute sa démesure et qui, dans une certaine mesure, donne un coup d'arrêt au mal. C'est une sorte de digue, en fait, la repentance. La repentance, c'est ce qui permet d'endiguer le mal tout en laissant, on va dire mieux, la repentance, c'est du tissu Gore-Tex. Ça laisse respirer le bien et ça empêche le mal de rentrer. Ça, c'est de l'actualisation. Pardon ?
Toutes ces carences qu'il a faites ne lui seront pas rappelées. Il vivra dans sa justice, la sienne. Il vivra dans sa justice qu'il accomplit. Moi, j'entends dans toutes ces carences qu'il a faites ne lui seront pas rappelées la culpabilité. Donc, ouais. J'y verrai une lecture freudienne. J'y verrai une lecture freudienne, c'est-à-dire l'acte et la culpabilité.
Ouais.
C'est-à-dire que tant qu'on se sent coupable, de quelque chose, on peut pas agir. Ou alors on agit mal. Et si effectivement la faute n'est pas rappelée, si la faute n'est pas rappelée, et que l'homme vit dans sa justice, c'est-à-dire qu'il a intégré lui-même la notion de justice, il l'a accompli, alors la culpabilité disparaît.
Mmh. Exact, oui. Par ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs dans Ézéchiel, moi je crois que c'est dans Ézéchiel. Il est dit que c'est là une étape préliminaire au pardon. Et que le pardon, ce n'est pas oublier les fautes. Le pardon, c'est ne pas se souvenir des fautes. Donc, en fait, c'est lâcher la culpabilité.
C'est quand même, je trouve que on vit, les gens de cette époque, c'est dans la menace constante, avec une solution. Au péché, c'est la mort. Tu mourras. Si tu ne fais pas ça, tu mourras. Eh bien, tu mourras.
Oui.
C'est quand même plus qu'oppressant. Hein.
Il faut se méfier des jeux de langage. Parce que ce peut être une forme d'exagération du discours pour autoriser la prise de conscience. Vous voyez, aujourd'hui, quand on veut dire que on a vécu une expérience très forte, on va dire que c'était mortel. Voire mortel grave. Mais nous qui sommes les contemporains de ce discours, on n'est pas dupes de ce qui est dit. Et puis, une fois de plus, je reprends toujours cette métaphore parce qu'elle est très, très bonne. Quand on dit que le PSG a écrasé Lyon, ou que ça a été une tuerie, tous les joueurs de Lyon se sont sortis sur leurs deux jambes à la fin du match. Bon, c'était un massacre, mais à la fin, les gens ont salué, etc. Bon. Je reviens sur ce que je disais au départ. Il y a ici une dramaturgie, une mise en scène, une théâtralisation du comportement des uns et des autres pour que chacun puisse s'observer et en tirer les conséquences. C'est-à-dire que c'est pour mieux s'identifier à celui qu'on est. En fait, on pourrait dire que le texte joue le rôle de surface de projection. Pour pouvoir s'observer, il faut se mettre à distance, et le texte permet de se mettre à distance. En fait, le texte nous lie. Et comment est-ce qu'on fait pour susciter une conscience? Quelqu'un qui vient au monde, un enfant, il ne sait pas est-ce que c'est le bien ou le mal. Donc, on va l'aider à construire sa conscience en racontant des histoires, notamment. Et de ce point de vue-là, les contes de fées jouent un rôle prépondérant. Les textes bibliques jouent ce rôle-là aussi. Pour construire une conscience de ce qui fait vivre et de ce qui réduit la vie, ce genre de textes sont utiles parce qu'ils offrent quelques points de repère. Mais ce sont des fictions, en fait, qui ont ce rôle de texte pédagogique. Quand je dis ce sont des fictions, en tous les cas, c'est ce que je vous propose comme usage du texte.
C'est ce que dit le verset 32.
Oui. Oui, on peut. Oui, oui, mais je ne voulais pas l'utiliser comme Deus ex machina en disant ça finit bien, etc. Mais oui, effectivement. Quand il est écrit finalement, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez donc, c'est encore la teshuva, et vivez. Ça montre bien que l'objectif, c'est pas la mort du méchant, c'est pas la mort tout court. Et que il y a une. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de menace. C'est une menace pour qu'il y ait une prise de décision. C'est que tant qu'on ne se sent pas vraiment inquiété, des fois, on reste sur sa pente naturelle. Et là, il y a en quelque sorte un électrochoc qui nous fait prendre position. Il faut se sentir concerné, en fait. Et quand notre vie est soudainement mise en jeu, alors on se sent concerné. Quand on a l'impression que ce que l'on fait est sans conséquence, souvent on continue. Oui.
En fait, l'histoire d'Ézéchiel, comme avant, est toujours dans la même perspective du Deutéronome 29, quand le Seigneur dit, voici que nous devons choisir la vie, la mort, la bénédiction, c'est la vie.
Oui.
Voilà, notre choix, c'est la vie ou la mort.
Oui. Au sens où c'est un véritable choix, y compris avec ses nuances. C'est-à-dire que c'est nous qui ferons le choix, c'est pas un choix qui nous sera imposé. Vous savez, je veux dire par là qu'il n'y a pas une sorte de double prédestination où les uns seraient appelés à cela et les autres condamnés à cela. Hein, c'est que nous pouvons vraiment orienter notre vie.
Un choix qui ne veut pas imposer, mais proposer.
Oui, c'est ça. Dieu propose, l'homme dispose. Vous aviez une petite.
Je disais tout simplement une réflexion très, très globalement dans cette démarche subtile qui n'est pas non plus, très pas laïciser finalement l'éducation, la pédagogie. Le mot pédagogie ne convient pas très bien. Mais globalement, c'est bien la relation équivalente à protéger l'enfant de lui-même.
Et de ses aïeux.
Oui.
Oui, il y a effectivement plus qu'une protection de l'enfance, il y a une protection de l'humain, en fait.
Avec le devoir de dignité, de ne pas dire à un moment donné où la chute du mur est arrivée, je te l'avais bien dit. Il faut avoir la dignité de ne pas le dire.
On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Je vous renvoie à un petit verset du Deutéronome qui, en fait, résume cela très bien. C'est Deutéronome, chapitre 24, verset 16. Ça, c'est pour François. « Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs fils, les fils ne seront pas mis à mort pour leurs pères, c'est à cause de son propre péché que chacun sera mis à mort. » Donc c'est bien ça, sauf que c'est un peu cruel, mais voilà. Le développement d'Ézéchiel 14 et 18 méritait quand même d'être entrepris plutôt que de s'en tenir à ce verset qui parle bien. Voilà, donc on peut s'en tenir là, je reste à votre disposition pour continuer les chamailleries à votre guise.